Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Ali Etovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Deuxième étape de notre exploration de l'économie chinoise. Après avoir sillonné les routes de la soie sur les traces des premiers caravaniers, notre périple nous emmène en Chine au 19e siècle, au lendemain des guerres de l'opium. La défaite infligée par le Royaume-Uni révèle la perte de vitesse de l'Empire qui prend soudain conscience de ses fragilités. La Chine entame alors une longue marche vers la modernité, entrecoupée de tentatives infructueuses et d'avancées modestes. La chute de la dynastie Qing, l'avènement de la République, puis l'arrivée au pouvoir de Mao. Rien ne semble permettre à l'État chinois de rattraper son retard sur l'Occident, lui qui constituait pourtant une puissance de premier plan au XVIe siècle. Il faudra attendre l'arrivée de Deng Xiaoping en 1978 pour que la Chine s'éveille enfin. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons retracer l'histoire de ce rendez-vous manqué avec la modernité en compagnie de Jean-François Huchet, économiste, président de l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade. Bonjour Jean-François Huchet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors au XVIe siècle, la Chine était, semble-t-il, plus riche que l'Europe. Mais à partir de la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe, l'économie chinoise va régresser. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce déclin ?
Alors il y avait certaines parties de l'économie chinoise, hein, plutôt les régions qui étaient situées dans l'est de la Chine, qui, visiblement, selon les travaux des historiens, était à un niveau de développement comparable à ce qu'on pouvait retrouver dans certaines régions de l'Angleterre. Donc effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la Chine n'a pas suivi le même destin que ces régions qui allaient s'industrialiser dans l'Angleterre. Alors, il y a, je pense, plusieurs raisons. D'abord, il y a eu des raisons purement technologiques où l'agriculture chinoise n'a pas suivi des augmentations de productivité. Avec la forte croissance de la population, on a assisté à des famines, à une déstabilisation très forte de certaines régions chinoises. Par ailleurs, on a eu un empire qui commençait à vaciller sur le plan plus politique, avec beaucoup de problèmes de corruption, des concours pour devenir fonctionnaire qui pouvaient être achetés, avec une perte, on va dire, dans la sélection des fonctionnaires qui faisaient véritablement la force de l'Empire, et avec effectivement de plus en plus de mouvements de rébellion interne qui ont commencé à déstabiliser à partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle la Chine, avant qu'elle ne rencontre les étrangers.
Des mouvements de rébellion qui sont aussi liés aux famines, liés à l'absence de progrès de l'agriculture. Donc on a une dynastie des Qing qui est largement fragilisée. C'est ce qui explique la victoire de la Grande-Bretagne en 1842 lors de la première guerre de l'opium. Une victoire qui va être suivie de la signature de ce qu'on appelle les traités inégaux qui auront eux aussi un certain nombre de conséquences, Jean-François Huchet.
Tout à fait. C'était ce que le grand historien français Fernand Bourdelle disait. Pour l'Inde également, c'est pour des raisons différentes, mais on avait des géants au pied d'argile qui étaient déjà très passablement essoufflés au moment où les puissances étrangères vont arriver finalement assez peu armées et vont réussir à déstabiliser des empires comme l'Empire chinois ou l'Empire moghol.
Et concrètement, les conséquences économiques de ces traités inégaux ?
Alors, il faut bien voir qu'à l'époque, beaucoup de rentrées fiscales provenaient effectivement du commerce extérieur. Et les premières demandes des pays étrangers ont été justement des demandes d'extraterritorialité, à savoir de pouvoir commercer sans payer de droits de douane, ce qui a bien sûr engendré beaucoup de problèmes sur le plan fiscal pour les puissances étrangères. Et puis, bon, il y a eu effectivement aussi du commerce de l'opium qui a, comme vous le savez, beaucoup déstabilisé, et notamment tout le sud de la Chine, avec des sorties de monnaie chinoise qui étaient très importantes. Et ensuite, effectivement, des concessions qui étaient accordées aux puissances étrangères pour développer un certain nombre d'industries légères ou d'extraction minière qui n'étaient plus dans les mains finalement des intérêts chinois.
Alors tous ces éléments permettent d'expliquer que l'industrialisation ne démarre pas en Chine au 19e siècle comme on aurait pu l'attendre. Il y a aussi un certain nombre d'historiens qui estiment qu'il n'y a pas encore de bourgeoisie en Chine qui aurait accumulé un capital susceptible d'être injecté dans le développement. C'est aussi cela qui pose problème ?
Alors, ça, c'est très controversé, en fait, hein, parce que on a quand même, effectivement, on aurait pu avoir des surplus financiers qui existaient quelque part, tout de même en Chine. Ce qui a posé problème, c'est effectivement, à la fin du 19e siècle, surtout, le fait qu'il y avait une culture, on va dire, morale et des structures politiques qui ont empêché que cette bourgeoisie ou proto-bourgeoisie puisse se faire entendre comme au moment de la Révolution française ou de la Révolution anglaise à la fin du XVIIIe siècle. Donc il y a des structures sociales et politiques qui sont différentes en Chine.
Et au même moment, il y a le voisin japonais qui entame la Révolution Meiji qui débute en 1871. Quel impact est-ce que cet exemple va avoir sur la Chine, Jean-François Huchet ?
Alors c'est un impact extrêmement fort parce que d'un côté vous avez un complexe de supériorité de la Chine qui a toujours considéré le Japon comme un pays entre guillemets vassal qui est directement influencé par la culture confucianiste et de l'autre côté vous avez un territoire asiatique qui va réussir sa modernisation en justement réformant les structures de l'État, tout le domaine militaire, les concours pour rentrer dans la fonction publique, nationaliser des firmes. En fait, le Japon réussit sur toute la ligne où la Chine, justement, échoue à mettre bout à bout une série de réformes. Et donc, le Japon va être une source d'inspiration très importante pour le Japon, avec beaucoup d'intellectuels... Pardon, pour la Chine, excusez-moi. Et beaucoup d'intellectuels chinois vont faire des séjours prolongés, justement, au Japon pour étudier ce qui s'y passe.
Alors, justement, après l'humiliante défaite de la marine chinoise, face à la flotte japonaise en 1895, un texte est envoyé par un collectif d'intellectuels à l'empereur, le manifeste de Kang Youwei, qui élabore des propositions concrètes visant à moderniser l'Empire. Écoutons-en un extrait lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho.
Humblement, nous pensons que les institutions de notre dynastie, qui reproduisent le système de la dynastie Ming, datent à présent de plusieurs centaines d'années. Toute chose à la longue finit au rebut. Les instruments à la longue s'abîment, les lois à la longue se corrompent. Le système officiel emploie des dizaines de milliers d'agents en surnombre et désœuvrés. Tous ces gens ne possèdent pas de formation solide et il n'existe aucun choix possible dans leur recrutement. Ainsi, prévalent les calculs égoïstes et la corruption. La fraude et les faux-semblants sont entrés dans les mœurs. Dans les écoles, l'utile n'est pas appris et on apprend ce que l'on n'utilisera pas. Les paysans ne parviennent pas à tirer de la terre le meilleur profit, tandis que les marchands ne possèdent pas de fabrique pour produire. Or, les produits étrangers, confectionnés avec une indécente ingéniosité, se diffusent à l'intérieur du pays et la population s'appauvrit chaque jour davantage. Notre quintessence s'avère d'ores et déjà épuisée, et même en l'absence de différends avec l'étranger, d'autres crises ne manqueront pas d'éclater à l'avenir. À présent, tandis que des dizaines de pays nous regardent avec convoitise, nous sommes confrontés à un changement de situation et cela au terme de 4000 ans d'histoire. Si l'on ne se débarrasse pas de ces lourdes pelisses quand la canicule est à son comble, et si l'on continue à recourir aux anciennes prescriptions alors que les symptômes ont changé, il devient impossible d'échapper à la mort par insolation ou à un grand danger. Sans une réforme profonde des anciennes lois, aucun gouvernement durable ne sera possible.
Voilà un appel qui est signé par 1200 lettrés et qui annonce l'éphémère mouvement de réforme de 1898, dont Kang Youwei fut l'une des têtes pensantes. Pourquoi est-ce que ces propositions n'ont pas abouti, Jean-François Huchet ?
Alors, elles n'ont pas abouti parce qu'il y a eu une contre-révolution de palais qui a été principalement orchestrée par l'impératrice douairière Cixi face au nouvel jeune empereur Guangxu qui avait reçu effectivement le soutien de tous ses intellectuels et qui était persuadé effectivement qu'il fallait imiter ce qu'avait fait le Japon ou éventuellement puiser dans des bonnes pratiques utilisées dans les gouvernements étrangers. D'ailleurs, ça évoluera, puisqu'à partir de 1919, on va en reparler, j'imagine, les Chinois vont plutôt être déçus de ce qui se passe, justement, vis-à-vis des étrangers. Et donc, cette contre-révolution, ne veut pas de nouveautés, refuse de voir, effectivement, des rentes qui existaient, qui sont, effectivement, décrites dans le texte de Kang Wei, remises en question. Et donc, au bout de 100 jours, la réforme est tuée dans l'œuf, on peut dire, et tous les intellectuels sont soit arrêtés, punis très sévèrement, voire même condamnés à mort, ou d'autres vont repartir au Japon ou seront exilés. On les reverra plus tard, par contre.
Alors, on va les suivre dans cette histoire de la Chine. La dynastie des Qing est en tout cas traversée par un certain nombre de troubles. Ces difficultés en cascade vont entraîner la chute de l'Empire en 1911 et la République est proclamée le 1er janvier 1912. Quels sont alors les modèles qui président à la création de cette République, Jean-François Huchet? De quoi s'inspirent les révolutionnaires?
Alors, les révolutionnaires sont à la fois influencés par le Japon, et puis également par les démocraties occidentales, hein, puisque il y a une constitution qui est votée par un Sénat constituant, avec une chambre haute, une chambre basse, un gouvernement. Donc au démarrage, au moins pendant la première année, il y a en tous les cas avènement d'une démocratie, avec à sa tête le docteur Sun Yat-sen, qui a beaucoup œuvré et qui s'est beaucoup inspiré de ce qui s'est passé au Japon.
Il y a alors une volonté de rejeter la pensée de Confucius qui est associée à un certain conservatisme?
Alors, c'est plus compliqué. Ce refus, il va surtout intervenir à partir de 1919, avec le mouvement des intellectuels, alors que le docteur Sun Yat-sen et un certain nombre de penseurs qu'on va retrouver ensuite dans la République chinoise, eux sont plutôt pour un mix, sans véritablement repousser complètement les valeurs confucéennes.
Sun Yat-sen qui va créer le Kuomintang, qui est le premier véritable parti politique en Chine.
Tout à fait, qui est à la fois vénéré aujourd'hui en Chine populaire et également à Taïwan.
Et alors pendant la Première Guerre mondiale, la Chine va se placer du côté des alliés, mais à la fin de la guerre, malgré l'aide chinoise, la France et le Royaume-Uni donnent les possessions allemandes revendiquées par la Chine au Japon. C'est cela qui va déclencher le mouvement du 4 mai 1919 auquel vous faisiez allusion. Écoutons d'abord Cheng Sheng, un écrivain chinois qui a suivi dans sa jeunesse Sun Yat-sen, le père de la révolution de 1911.
Il y a la révolution et la révolution. Le mouvement du 4 mai, c'est la révolution sociale. Et tandis que la révolution de 1911, c'est une révolution politique, c'est-à-dire de l'apparence. Et en somme, la monarchie et la république n'ont pas eu de grandes différences. Et c'est la révolution économique qui commençait. Alors, à ce moment-là, il y avait le mouvement des intellectuels, surtout les étudiants. Alors, se soulevaient contre la conférence de la paix à Paris après la Première Guerre.
Le mouvement du 4 mai 1919 constitue à la fois une révolution économique et sociale, Jean-François Huchet.
Oui, on peut dire que c'est véritablement un point d'inflexion très important dans le mouvement nationaliste et on peut dire dans la reconquête quelque part de l'espace chinois, à la fois intellectuel mais aussi territorial, puisque c'est bien sûr le sentiment de trahison qui va déclencher ce mouvement du 4 mai, mais au-delà de ça, c'est véritablement une volonté de faire table rase du passé, et donc des critiques très fortes à l'égard du système confucéen qui est, selon les intellectuels, ces jeunes intellectuels, à l'origine en fait de la défaite chinoise et de son incapacité quelque part à se moderniser.
En quoi est-ce que le confucianisme est responsable de la défaite, selon eux?
Par exemple, la manière dont on inculquait un certain nombre de valeurs, les concours de recrutement des fonctionnaires. Il y avait aussi le sentiment à l'époque que les valeurs confucéennes, justement, n'étaient pas propices pour le développement du commerce, ce qui se révélera finalement pas tout à fait vrai, puisque Taïwan continuera par la suite à être très confucéen, ou voire même le Japon, la Corée, et on sait très bien qu'aujourd'hui, ce sont des pays qui se sont développés très rapidement.
C'est en tout cas une nouvelle tentative, ce mouvement du 4 mai, pour moderniser l'appareil d'État chinois, dans un pays qui est encore divisé entre les seigneurs de la guerre. C'est encore très compliqué en Chine à cette époque-là, Jean-Pierre Léger.
Oui, c'est d'ailleurs une des raisons qui empêche tout développement économique, parce que la Chine n'est pas en paix sur le plan intérieur. Et quand vous regardez le nombre de conflits existants durant cette époque, et d'ailleurs jusqu'en 1949, vous comprenez pourquoi un pays qui n'est pas en paix, qui a plusieurs types de conflits sur son territoire, ne peut pas développer une économie et penser une modernisation. Donc on avait un gouvernement qui s'appelait le gouvernement du Nord, qui était donc contrôlé par plusieurs généraux à l'issue de la République, donc principalement par Yuan Shikai, et cette division de la Chine entre le Nord et le Sud, mais après les 1920, ça va encore un peu plus se morceler. Il faudra attendre 1928 pour voir l'avènement de la République chinoise.
Un dernier mot, peut-être Jean-François Huger, sur ce mouvement du 4 mai qui constitue, semble-t-il, un moment essentiel dans la genèse du Parti communiste chinois, mais également dans l'histoire du Kuomintang.
Oui, tout à fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a à partir du mouvement du 4 mai, plusieurs intellectuels qui vont refuser quelque part la démocratie libérale occidentale et qui vont commencer à étudier très sérieusement le communisme. Et ce sont bien sûr des intellectuels qui vont être à l'origine de la création du Parti communiste qui va se dérouler dans les concessions françaises de Shanghai au tout début des années 20.
Parti communiste créé en 1921 ?
Tout à fait en 1921, lieu qu'on peut encore visiter encore aujourd'hui. Et pour la République, c'est un mouvement important qui va également faire démarrer tout le mouvement de modernisation de la Chine. Et c'est pour ça qu'on se réclame de part et d'autre aujourd'hui en Chine populaire et à Taïwan du mouvement du 4 mai 1919. Et il sera d'ailleurs intéressant cette année de voir que va faire le gouvernement communiste pour commémorer cet événement qui est quand même une manifestation contre un régime.
Mais au niveau international, à cette époque-là, Jean-François Huchet, les choses s'apaisent un peu dans les années 1910 et 1920. La Chine retrouve peu à peu son autonomie douanière et elle parvient à mieux s'imposer sur la scène internationale.
Alors, il y a une reconnaissance diplomatique. Donc du gouvernement du Nord jusqu'en 1928, qui est le représentant officiel de toute la Chine. Donc de ce point de vue-là, ça s'apaise. À partir de 1928, c'est le mouvement, c'est bien sûr le Kuomintang et la création de la République qui sera reconnue internationalement. Par contre, les étrangers continuent de jouir de droits extraterritoriaux en Chine et donc se posent toujours les problèmes du contrôle d'un certain nombre de secteurs, du commerce, qui continue de poser beaucoup de problèmes au gouvernement chinois.
Les Occidentaux qui lancent un certain nombre de chantiers d'industrialisation qui échappent finalement aux Chinois.
Tout à fait. Et on peut dire même que la première industrialisation chinoise est très largement dans les mains des Occidentaux.
La Chine, cependant, récupère la province du Shandong, qui devait donc être donnée au Japon. Elle la récupère en 1920. Mais le problème, c'est que le territoire est toujours morcelé et la République trop faible pour mettre en branle la modernisation de l'État chinois. L'État est très vite gangréné par la corruption et ne parvient finalement pas à se structurer.
Alors, c'est une économie de guerre ? Et donc vous avez un gouvernement qui dispose de peu de ressources, et le peu de ressources dont il dispose, il va le consacrer à se battre contre les communistes, contre les seigneurs de la guerre, contre des rébellions au Tibet ou dans l'extrême-ouest de la Chine. Et puis, à partir de 1931, il va consacrer une bonne partie de ses ressources pour combattre le Japon qui a envahi le nord de la Chine. Donc, vous voyez, il y a une multitude de conflits qui, bien sûr, vont entraîner de l'inflation parce qu'on fait tourner la planche à billets. Et puis, globalement, même si le gouvernement décidait de bonnes politiques, il n'avait aucun moyen de les appliquer parce que ces structures de gouvernement ne touchent pas, finalement, les territoires qu'il est censé contrôler.
On peut dire que le Kuomintang a été empêché vraiment de mener à bien ces réformes qu'il souhaitait mettre en place.
Oui, on peut tout à fait dire cela. Alors, il est difficile de réécrire l'histoire et de se dire que si on avait été dans une Chine apaisée, avec un gouvernement qui contrôlait tous ces territoires, qu'est-ce qu'il se serait passé? C'est très difficile à le dire. Alors, sur un territoire plus réduit, ensuite, bien sûr avec l'aide américaine, mais qui très certainement serait arrivé aussi à partir de 1945, on a vu qu'après 1949, Taïwan s'est développé avec un gouvernement nationaliste de manière extrêmement spectaculaire. Donc...
Et vous l'avez dit, à partir de 1931, le Japon va envahir la Mandchourie, et donc ça va progressivement déboucher sur une guerre ouverte. Et au même moment, le parti communiste chinois monte en puissance et lance une guerre rurale. Donc on voit qu'il y a une multiplication des fronts à cette période, dans les années 30 et 40, Jean-François Huchet.
Oui, à partir donc, au démarrage, on a des insurrections communistes dans les grands centres urbains, et puis le Kuomintang, le parti nationaliste qui est au pouvoir, va massacrer les communistes dans les grandes villes, et ils vont se replier sur des zones rurales et par la suite attaquer, encercler, vont remonter vers le nord de la Chine dans un des épisodes bien sûr les plus connus, qui est celui de la Longue Marche, et qui va conduire les communistes à se regrouper aux alentours de 1934 dans la province du Shaanxi, dans une petite ville qui s'appelle Yan'an, dans laquelle ils vont rester protégés par les seigneurs de la guerre locaux également, jusqu'aux alentours de 1945, lorsque les Russes vont quelque part leur remettre les clés de la grande province du Nord-Est.
Et alors justement, comment est-ce qu'on peut expliquer la victoire du Parti communiste chinois et l'arrivée au pouvoir de Mao en 1949? Le Parti communiste a été aidé notamment par les victoires soviétiques sur le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale?
Alors c'est d'abord un parti qui est beaucoup mieux structuré. Dans les territoires où il s'implante, il ne va pas pratiquer la politique de la terre brûlée comme très souvent c'est le cas avec les armées républicaines. Il y a moins de corruption. Il y a aussi des idéaux qui font que le moral est meilleur. Et puis, il y a effectivement une aide qui n'est pas affichée ouvertement par les soviétiques, mais qui va permettre tout de même avec en 1945, sur toute la portion du territoire qui a été abandonnée par l'armée japonaise et qui est le grenier à blé de la Chine, avec en plus un certain nombre d'usines, les communistes vont bénéficier ici d'une aide très importante pour gagner un territoire qui va leur permettre progressivement ensuite de gagner le centre et ensuite le sud de la Chine.
C'est cela qui va permettre véritablement la victoire de Mao et le fait que, à ce moment-là, les républicains vont être obligés de fuir à Taïwan?
Tout à fait. Ils vont d'abord partir de Nankin vers le sud, ensuite vers Chengdu, Kunming, les villes qui sont plus à l'ouest, et puis ensuite, définitivement, à partir de la fin 48, ils vont se réfugier sur l'île de Taïwan.
La République populaire de Chine va être proclamée à ce moment-là, et Mao va tenter à son tour de moderniser le pays. On en parle dans un instant. On entend un chant de propagande maoïste intitulé « Nous grandissons ». Notre histoire économique de la Chine se poursuit. Nous nous sommes arrêtés donc à l'arrivée au pouvoir de Mao en 1949. Dans quel état se trouve alors l'économie chinoise, Jean-François Huchet?
La Chine est dévastée par, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de multiples conflits, et en particulier le dernier, la guerre civile entre communistes et le parti nationaliste. Donc c'est une Chine exsangue qui est également frappée d'hyperinflation. avec des systèmes de transport qui ont été complètement détruits, des usines qui ont été en partie démontées par les Russes et soit dévastées ensuite par la guerre civile, avec des famines qui existent un peu dans toutes les régions. Donc pour le Parti communiste, il s'agit de remettre dans l'ordre, et ce sera effectivement une des premières phases qui dure jusqu'en 1952-53, de remettre de l'ordre dans cette économie chinoise qui est vraiment en piteux état.
Alors il y a beaucoup de discussions des historiens autour de cette question. Certains estiment que le Parti communiste chinois a commencé à nationaliser une grande partie de l'économie dès 1950, qu'il n'y a pas eu cette phase de négociation avec les capitalistes chinois, entre les capitalistes chinois et les communistes. Qu'en pensez-vous, Jean-François Huchet ?
En fait, les deux se sont déroulés en même temps. C'est vrai que pendant un certain temps, on a longtemps privilégié quelque part la version officielle qui était une sorte de cohabitation tranquille avec des capitalistes qui seraient restés en Chine. Ceux qui, bien sûr, étaient contre le communisme sont partis à Taïwan ou à Hong Kong, avec une frontière qui était encore poreuse à Hong Kong jusqu'en 1953, donc on pouvait encore faire des allers-retours. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les travaux d'historiens, et en particulier les travaux qui ont été faits par l'historien Frank Dikotter, qui enseigne à Hong Kong, montrent bien que, à l'instar de ce qui s'est passé effectivement en Europe de l'Est, on a une implantation du régime communiste dans les contrôles de la société, contrôle politique de la population, classification de la population en ceux qui sont ennemis, qui pourraient être ennemis, ceux qui sont plutôt favorables au régime. On a déjà, dès 1949, bien sûr, une volonté du Parti communiste et bien d'appliquer un contrôle social et politique très fort sur la population. Alors, en ce qui concerne l'économie, on a commencé très tôt, effectivement, à essayer de persuader les capitalistes de laisser, et ça va s'accélérer à partir de 1952, de laisser quelque part presque quasi gratuitement leurs biens au Parti communiste chinois. Alors, ça s'est traduit par...
Ça ne va pas passer sans heurts, j'imagine.
Il y a eu beaucoup de morts, des dizaines de milliers de morts dans ces mouvements, puisque le Parti communiste a quelque part exproprié de manière assez violente en faisant des pressions sur les détenteurs de commerce, les patrons d'entreprise, en imposant des taxes, des impôts, avec à la fin comme seule solution finalement de se débarrasser de ces actifs et de les laisser quasi gratuitement au Parti communiste qui, en 1953, avait pratiquement mis la mainmise sur toute l'économie.
Et alors, quelle est l'influence de l'URSS sur la Chine dans cette première phase entre 1949 et 1953 ?
Alors, l'influence de l'Union soviétique est très importante. Même au-delà de 1953, on peut dire que jusqu'en 1958, alors après, la rupture intervient au 1er juillet 1960, mais l'influence de l'Union soviétique est capitale parce que la Chine, donc comme on le disait tout à l'heure, est dans une situation très difficile sur le plan économique, et donc l'Union soviétique va signer un traité d'amitié et de coopération. Et dans ce traité, eh bien, l'Union soviétique va non seulement prêter beaucoup d'argent à la Chine, mais également envoyer ce qu'on appelait des experts, qui vont à la fois être des conseillers politiques, mais également des experts ingénieurs qui vont aider à construire de nouvelles usines, de nouvelles infrastructures. Et par ailleurs, l'Union soviétique va accueillir durant toutes les années 50 beaucoup de jeunes Chinois qui vont être formés dans les écoles d'ingénieurs en Union soviétique. C'est toute une génération qui a effectivement appris dans les universités et écoles d'ingénieurs soviétiques, et également beaucoup de transferts de technologies, puisque c'est l'époque où pratiquement la Chine va se doter de technologies relativement modernes. On a toute une strate comme ça des années 50 qui va perdurer jusque dans les années 80, qui a aidé la Chine finalement à se moderniser sur le plan industriel.
Et à partir de cette période, à partir de 1953, on va véritablement implanter le modèle soviétique en Chine. C'est un transfert de système, Jean-François Huchet.
Tout à fait. Transfert d'institutions. On va adopter pratiquement les mêmes ministères qu'on retrouvait en Union soviétique.
Les mêmes plans quinquennaux.
Une commission d'État au plan, qui est l'équivalent du Gosplan soviétique. Les mêmes plans quinquennaux, c'est tout un système, en fait. Les permis de résidence qui vont diviser la population entre ceux qui sont nés dans les campagnes et ceux qui sont nés dans les villes. L'Union soviétique pratiquait effectivement ce contrôle de la population également. L'organisation de la protection sociale. En fait, tout est copié sur l'Union soviétique à partir de ce moment-là.
Et est-ce qu'il n'y a pas une spécificité chinoise dans le Danwei, l'unité de travail, qui organise l'ensemble de la vie professionnelle et privée en Chine ?
C'est peut-être un tout petit peu plus poussé qu'en Union soviétique, mais on retrouvait manière d'organiser l'entreprise. Il faut bien voir que dans les systèmes soviétiques, il n'y avait pas de profit, il n'y avait pas d'indépendance des entreprises. Et les entreprises étaient plutôt des microcosmes politiques, de transmission également du pouvoir politique. Et tout était organisé comme une sorte de base de vie à l'échelle de l'entreprise. Alors, ce qui était un peu différent, c'est qu'à l'époque où la Chine va se lancer dans ce système, elle est beaucoup plus pauvre. Et donc, beaucoup plus de choses vont être organisées à l'échelle de l'unité de travail chinoise. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, donner des tickets de rationnement, organiser des cantines pour justement permettre à ces ouvriers de survivre. On appellera ça le système du bol de riz en fer parce que on donnait quelque part un peu à manger et on pouvait effectivement faire beaucoup plus de choses à travers cette entreprise. Alors qu'en Union soviétique, on avait déjà une société qui était beaucoup plus développée et donc il y avait une vie à l'extérieur qui était un peu plus développée.
Et puis il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place, notamment le fait que l'industrie est tournée vers le militaire et non vers la consommation et le fait que cette économie qui se met en place pour la plupart des biens, c'est une économie de pénurie, Jean-François.
Oui, mais encore une fois, comme toutes les économies socialistes de type soviétique, alors la Chine avait effectivement besoin de s'armer. Il y a eu la guerre de Corée également qui a également poussé les autorités chinoises à développer beaucoup leur industrie militaire. Ce sera encore plus le cas à partir de 1958 lorsque Mao va rentrer dans une sorte de paranoïa vis-à-vis de l'Union soviétique et puis des États-Unis, où là, il va vraiment privilégier l'industrie militaire. Mais disons que sur le premier plan quinquennal, qui sera d'ailleurs le seul à arriver à son terme jusqu'à 1978, le gouvernement chinois privilégie l'industrie lourde aux dépens de l'industrie légère et bien sûr l'investissement aux dépens de la consommation.
Et dans un premier temps, ces réformes, elles marchent plutôt bien. Il y a des progrès qui apparaissent sur le plan agricole. On investit dans l'éducation. Il y a beaucoup de logements qui sont construits. On peut presque parler de l'âge d'or du maoïsme pour qualifier cette période.
Oui, c'est souvent l'expression qu'on utilise pour qualifier cette période. Il faut dire que la période d'avant 1949 avait été tellement terrible pour la Chine qu'on avait vraiment le sentiment à l'époque que quelque chose de nouveau était en train de se mettre en place. Mais je pense à juste titre, dans la mesure où il y a effectivement beaucoup de progrès dans l'agriculture. Et les régimes communistes, d'ailleurs, se caractérisent par une capacité, on est dans les premières phases d'industrialisation, à être relativement efficace parce que c'est justement l'État qui va surmonter des obstacles, par exemple le fait que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour créer ou monter tel ou tel type d'entreprise. Donc c'est l'État qui vient, par exemple, créer la première entreprise d'automobile ou la première entreprise de chimie lourde. Le problème arrive plus tard, lorsqu'il s'agit d'augmenter la productivité, de trouver des produits nouveaux, de faire mieux marcher ce qui existe déjà. Et là, les régimes communistes sont, que ce soit en Chine, au Vietnam ou en Union soviétique, sont finalement très mal armés pour, dans le civil en tous les cas, faire progresser l'existant.
Cette période de progrès, en tout cas, va s'interrompre, va voler en éclats avec le grand bond en avant de 1959, qui est précédé d'abord par la campagne des 100 fleurs. Alors expliquez-nous en quoi consiste cette campagne, Jean-François Huchet, qui vise principalement les intellectuels ?
Oui, Mao a toujours été très méfiant à l'égard des intellectuels. Il pensait que ceux qui étaient restés en Chine s'étaient raccrochés mollement au régime communiste. Et il va donc lancer une campagne où il demande aux intellectuels de dire ce qu'il pense sur ce qui peut être amélioré dans le régime.
Mais c'est un piège qu'il aurait tendu ?
Tout à fait. Il l'avait déjà fait dans les années 30 lorsqu'il était à Yan'an. Il avait utilisé la même méthode. Ça permet finalement de repérer ceux qui sont les plus critiques à l'égard du parti. Simplement, la réaction a été très forte de la part des intellectuels. Il a été surpris par l'ampleur des critiques qui vont émaner des intellectuels. Et donc, Mao va avoir une répression d'autant plus violente et beaucoup des intellectuels vont être qualifiés de droitiers hein, par rapport à l'aile du Parti communiste et vont subir des peines d'emprisonnement très lourdes et vont être ostracisés pratiquement jusqu'en 1978.
En 1857, ce sont 7 mois de répression qui commencent, 6 millions de personnes qui sont déportées et les conséquences de cette transformation, c'est qu'une nouvelle classe politique arrive au pouvoir, sauf qu'elle est assez peu au fait des difficultés que traverse la Chine et des moyens de dépasser ces difficultés, Jean-François Huchet.
Oui, alors on entre dans une période aussi où il y a à la fois des explications diplomatiques de relations internationales. Mao est très insatisfait par les critiques suite au rapport Khrouchtchev sur l'évolution de l'Union soviétique. N'accepte pas également les critiques sur le culte de la personnalité de Staline, même si les deux hommes ne s'entendaient pas du tout. Mais en tous les cas, ça a arrangé Mao qu'il y ait un culte de personnalité en Union soviétique. Ça lui permettait de l'appliquer en Chine. Il considère également que l'Union soviétique a trop de pouvoir via ses conseillers politiques en Chine. Et donc, il veut quelque part s'émanciper un petit peu de l'Union soviétique. Mais il n'a pas les moyens de le faire sur le plan financier. Et puis par ailleurs, il considère que ça ne va pas assez vite sur le plan de l'implantation du communisme. Et donc il veut accélérer quelque part à la fois l'implantation du communisme dans les campagnes.
Et cela alors même que le fait qu'il ait mis à l'écart une grande partie de l'élite intellectuelle va s'avérer catastrophique pour la modernisation économique de l'appareil productif.
Oui, alors c'est pas tant cette nouvelle classe c'est surtout le fait que les objectifs de Mao étaient tout à fait complètement irréalistes et que personne n'a véritablement osé dans ce système dénoncer la folie dans laquelle Mao était en train d'embarquer la Chine, ni au démarrage, ni pendant ce mouvement, puisque a priori, on le sait aujourd'hui, tous les grands dirigeants savaient le drame qui était en train de se dérouler dans les campagnes chinoises.
Alors justement, en quoi consiste concrètement le programme du Grand Bond en avant qui est donc mis en place à partir de 1959, Jean-François Huchet ?
Mais en fait, il fallait trouver de l'argent quelque part, puisque l'Union soviétique n'était plus accessible. La Chine était ostracisée par les États-Unis, donc ne pouvait pas emprunter auprès de financeurs internationaux dans le monde capitaliste. Et donc le seul moyen qui restait, c'était d'extraire encore un peu plus de richesses sur le dos des paysans. Et traduit d'une autre manière, ça voulait dire qu'on allait demander des quotas de production encore plus élevés aux paysans et d'en extraire encore un peu plus pour pouvoir le revendre et donc trouver des ressources sur l'agriculture. C'est un grand classique des régimes communistes. Et donc on a donné des quotas très importants de production et tout le monde a embrayé par peur de dire non à Mao qui, bien sûr, pouvait emprisonner ceux qui étaient un peu réticents. Et donc, la Chine est rentrée dans une espèce de folie où, à chaque échelon de l'administration, on a fait du zèle, mais la production n'a pas suivi. Du coup, on a racheté des quantités de plus en plus importantes de production aux paysans sans leur laisser, bien sûr, le moyen de vivre et d'avoir des semences pour replanter l'année suivante. Et puis, du côté de l'industrialisation, on a demandé aux paysans de participer à l'industrialisation en faisant des hauts fourneaux, en produisant de l'acier. Et le slogan de l'époque, c'était de rattraper l'Angleterre en 5 ans.
Et alors l'exigence de l'État en termes de quotas agricoles va provoquer une famine absolument terrible en 1959. Écoutons le témoignage d'une journaliste chinoise, Ge Yang.
Les mensonges du grand bond en avant étaient absolument incroyables. Tous ceux qui ne répétaient pas ces faussetés étaient rétrogradés ou perdaient leur emploi. Depuis l'époque du grand bond en avant, tous les Chinois ont appris à mentir. Nous étions réduits à manger les enveloppes des grains, et non le grain lui-même. Nous mangions des feuilles d'arbres. Nous avons tous contracté l'hépatite. De nombreux paysans sont morts de faim. Personne ne sait exactement combien.
Voilà un témoignage extrait d'un documentaire diffusé sur la chaîne Histoire. La famine de 1959 a fait donc des dizaines de millions de morts, et cela alors même que les greniers de l'État étaient pleins à craquer, Jean-François Huchet.
Oui, c'est un des vraiment un caractère atroce de cette famine, qui est une famine purement politique. Alors après le grand bond en avant, effectivement, on a retrouvé dans les livres d'histoire des explications qui tenaient à des mauvaises conditions climatiques. Or, on sait aujourd'hui qu'elles n'ont pas été la cause de ce qui s'est passé.
C'était de la propagande
purement politique. Mmh. Et on estime aujourd'hui qu'il y aurait eu entre 30 et 50 millions de morts, avec des villages entiers qui ont disparu, des cas de cannibalisme dans le sud de la Chine qui ont été recensés. Donc ça a été une tragédie et un tournant pour le communisme chinois, parce que justement cette stratégie d'extraction forcée sur l'agriculture chinoise ne va plus jamais être une option pour le Parti communiste chinois. Et ça explique d'ailleurs les réformes de 78, où Deng Xiaoping va être obligé d'écouter les paysans et d'aller même au-delà de ce qu'il avait prévu en matière de réformes agricoles.
Et parallèlement à ces réformes agricoles, vous l'avez évoqué, on essaye de développer l'industrie dans les villages en créant des petits hauts fourneaux. Mais là encore, cette politique échoue. Alors pour quelles raisons ?
Oh, c'est tout simple, on n'avait pas de minerai de fer, donc on demandait aux paysans de mettre tout ce qui était en ferraille dans les hauts fourneaux pour justement fondre et faire de l'acier. Donc on mettait des couverts, des poignées de porte, tout était bon, il n'y avait plus absolument aucun objet en ferraille en Chine dans ces années chez les paysans. Et l'acier qui est produit est d'une qualité tellement mauvaise qu'on ne peut pas s'en servir, en fait. Et donc, c'est un échec total de cette production.
Et à quel moment Mao se rend-il compte des effets catastrophiques de la politique du grand bond en avant ? Est-ce qu'il y a des critiques qui s'élèvent malgré la peur de la répression ?
Alors, il le sait tout de suite. Dès la fin 1959, il est parfaitement informé de ce qui se passe, puisque dans tous les régimes communistes, il y avait des informateurs très très bien placés qui informaient Mao. Mais lui-même ne voulait pas revenir parce qu'il y a une dimension aussi très politique dans ce grand bond en avant. C'est-à-dire, vous étiez avec Mao ou contre Mao. Et donc, c'était un moyen également de réaffirmer son pouvoir. Qu'il pensait menacer, ce qui n'était pas véritablement le cas. Alors, il y a un seul dirigeant, le maréchal Peng Dehuai, qui va, en 1959, au cours d'un congrès du Parti communiste, critiquer le grand bond en avant, mais il va être mis en minorité et écarté du pouvoir et sévèrement critiqué. Mais même des dirigeants comme Deng Xiaoping n'oseront pas critiquer Mao à cette époque. Il faudra attendre 1961 pour que Mao fasse une vague autocritique, mais plutôt en essayant de faire porter le chapeau à des saboteurs ou des personnes qui ne voulaient pas appliquer sa politique pour expliquer l'échec du grand bond en avant.
D'accord, une autocritique toute relative, alors que le grand bond en avant a laissé un souvenir traumatisant en Chine. Jean-François Huchet, même aujourd'hui, c'est encore un sujet tabou.
Complètement, c'est d'ailleurs presque, je dirais, encore plus tabou que la révolution culturelle. On a encore plus de difficultés pour les historiens de voir apparaître une vraie histoire du grand bond en avant. Alors on a des livres qui ont été documentés sur cette période, mais qu'on ne peut pas trouver en Chine, qu'on achète à l'étranger. C'est plutôt des livres témoignages. Mais il n'y a pas une transmission, si vous voulez, une réelle transmission faite par les historiens sur cette période. Il faut dire que tout le Parti communiste a trempé dans cette histoire. Et il y a, je l'ai dit tout à l'heure, à l'exception de Peng Dehuai, personne n'a osé véritablement critiquer Mao. Alors que la révolution culturelle, vous allez avoir Mao contre d'autres, et notamment Deng Xiaoping, qui va être exilé. Et donc là, il y a une capacité à dire que Mao a fait quelque chose de mal.
Mais à partir de 1961-1962, un certain nombre de mesures mises en place dans cette politique du grand bond en avant sont tout de même abandonnées.
Oui, parce qu'on a été beaucoup trop loin, bien sûr. Donc on va par exemple rétablir les lopins de terre privés pour permettre aux paysans de cultiver un tout petit peu pour justement essayer de lutter contre la famine. Mais les communes populaires restent. En fait, ce sont les choses les plus extrêmes qui vont être un tout petit peu atténuées, comme les cantines obligatoires dans les campagnes. Et puis, on va arrêter un peu c'est la production de hauts fourneaux. Mais disons que ce ne sont pas toutes les politiques qui sont abandonnées. Et donc, on va avoir un certain rétablissement, ce qu'on pourrait dire l'orthodoxie soviétique, c'est-à-dire c'est le plan soviétique qui revient entre 61 et 66, mais tout n'est pas complètement abandonné. Puis il y a la rupture avec l'Union soviétique et la Chine va rentrer là dans une sorte de paranoïa sur le plan des relations internationales avec l'Union soviétique et les États-Unis.
Donc on peut dire que c'est une stabilité, une relative stabilité de courte durée, et cela d'autant plus que peu de temps après, Mao lance la révolution culturelle en 1966.
La République populaire de Chine vient de fêter son 17e anniversaire. Mais si le régime est jeune, les dirigeants sont âgés. Leur moyenne d'âge dépasse 60 ans, 60 années qui pèsent lourd. Et pour donner du sang neuf à cette révolution qui risque de s'assoupir, on est allé chercher les jeunes et même les très jeunes, les fameux gardes rouges. Ces gardes rouges, sur lesquels tout le monde s'interroge, nos confrères des actualités polonaises ont eu la possibilité de les filmer longuement à Pékin. La grande révolution culturelle prolétarienne, ce sont eux, les Unveidin, les gardes rouges. Leur uniforme, un brassard rouge et un petit livre rouge lui aussi. Ce petit livre, ce bréviaire, contient les principales citations du président Mao Tse-Tung. Chacun doit le lire partout et à chaque instant, seul ou en groupe. On en scorde des passages entiers, on le chante en chœur.
C'est à nouveau une période de chaos qui s'ouvre avec la révolution culturelle, Jean-François Huchet, la Chine au bord de la guerre civile.
Oui. Autant le grand bond en avant a été une période de chaos, surtout dans les campagnes, un peu moins dans les villes, même si les gens ont souffert aussi dans les villes. Mais pour la révolution culturelle, c'est le contraire. C'est l'industrie et les villes qui souffrent, et un peu moins les campagnes. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, à partir de 1958, en fait, c'est tout le système économique qui est complètement désorganisé. Il n'y a aucun plan quinquennal qui arrive à son terme. Et donc, on arrête d'avoir des statistiques pendant cette période. Puisque,
ce sont les 20 années perdues.
Oui, pratiquement. Et on a réussi à reconstruire un tout petit peu ce qui s'est passé pendant cette période. Mais la Chine est dans un tel idéalisme. On a un État qui n'est plus du tout au service du développement économique. C'est un État qui est mis au service de la révolution politique. Et cet idéalisme, par moments, bien sûr, joue des tours à la résolution de problèmes. Et c'est d'ailleurs sur ça que Deng Xiaoping va s'appuyer par la suite. C'est-à-dire, il va le dire, arrêtons cet idéalisme et essayons de revenir à la réalité pour traiter les problèmes.
Et ce que cherche Mao à l'époque, c'est à écarter ses opposants en s'appuyant sur la jeunesse.
Oui, c'est un... autant il y avait une dimension internationale forte pendant le grand bond en avant, et il y avait une volonté très certainement de construire encore un communisme qui ressemblait à l'Union soviétique. Autant en 1966, on est dans un exercice politique de destruction du parti lui-même en faisant appel à la jeunesse, qui va être effectivement le cas puisque le parti est complètement décimé. Et ça permet à Mao d'écarter pratiquement tous les dirigeants qui étaient autour de lui, sauf Zhou Enlai, qui est son premier ministre, mais qui va rester dans des conditions extrêmement difficiles qui lui-même subira toutes sortes d'humiliations jusqu'à sa mort en 1976.
Cette période de la révolution culturelle, l'écrivain chinois Yu Hua l'a décrit dans son roman Brothers, qui raconte l'histoire de deux frères passant des affres de la révolution culturelle au capitalisme de la Chine d'aujourd'hui. Dans cet extrait, l'un des deux enfants, Li Guangto, est harcelé par ses camarades car il est fils de propriétaire.
Quand Li Guangto entra à l'école, chaque fois qu'il fallait indiquer le nom de son père, elle lui faisait écrire sans hésitation Song Fangping. Cela causa bien du tourment à Li Guangto, car dès lors qu'il avait mentionné Song Fangping, il était contraint d'inscrire dans la rubrique statut familial propriétaire foncier. À l'école, il était en butte à une discrimination constante. Ses camarades le traitaient de petit propriétaire foncier. En dehors de Lilan et de son gang, quand il venait de la campagne, personne ne l'appelait Li Guangto. Les autres semblaient ne plus le connaître sous son nom, et même les professeurs finirent par l'appeler ainsi. « Petit propriétaire foncier, lève-toi et récite un passage du texte. » Quand il eut 10 ans, Li Guangtou se souvint qu'il avait un géniteur, celui-là même qui était mort noyé dans la fosse d'aisance en matant les fesses des filles aux toilettes. Li Guangtou espérait qu'en indiquant son nom, il échapperait à ce maudit statut de propriétaire foncier. Un jour, il se révolta et au moment de noter le nom de son père, il demanda à Lilan « Qu'est-ce que je mets ?» Lilan, qui préparait le repas, resta interdite. Elle regarda son fils sans comprendre. Puis elle répondit « Song Fanping ?» Li Guangtou baissa la tête. « Et mon autre papa ?» Lilan se rembrunit et déclara d'un ton qui n'admettait pas de réplique « Tu n'as pas d'autre papa ?»
Voilà, c'est un extrait qui traduit bien, selon vous, Jean-François Hichy, cette période de troubles et de soupçons, même si Youroy l'a décrit en l'occurrence avec une bonne dose d'ironie, qui caractérise d'ailleurs tous ses romans.
Oui, parce que la suspicion avait atteint l'intérieur même des familles, où on se dénonçait, les enfants dénonçaient des parents, des frères dénonçaient des sœurs, à l'intérieur des unités de travail, tout le monde se dénonçait, donc la Chine est prise dans une sorte d'hystérie et de peur collective, avec des gardes rouges qui, bien sûr, vont décider eux-mêmes de qui sont les ennemis, avec des différences régionales très importantes parce que dans certaines villes, le parti résiste, va s'allier à l'armée. Dans d'autres villes, eh bien, les gardes rouges vont pouvoir avoir des armes et prendre le contrôle de certaines villes. Donc on a une situation extrêmement chaotique qui mène la Chine au bord de la guerre civile durant l'année 1967. Et Mao le comprend et il va donc demander à l'armée de rétablir l'ordre, passant justement un accord avec une partie de l'armée qui le soutient.
Vous parliez tout à l'heure, Jean-François Hichy, de paranoïa à l'égard de l'URSS. C'est ce qui explique que dans les années 60, Mao met en place la politique du troisième front, c'est-à-dire les usines vont être déplacées dans les terres.
Oui, parce qu'à partir de 1964, tous les dirigeants, y compris Mao, sont persuadés que la Chine pourrait subir une attaque nucléaire. À la fois provenant de l'Union soviétique, avec laquelle elle entretient des relations très difficiles, hein, qui vont même par moments déboucher, auraient pu déboucher sur une guerre, on le sait aujourd'hui, hein, Kissinger nous l'a dit dans ses mémoires, et puis avec les États-Unis, parce que durant les années 60, on a encore des vives tensions avec les États-Unis, voire les deux pays en même temps. Donc ils vont décider de déplacer toutes les usines jusqu'en 1971.
Et ça va s'avérer extrêmement coûteux et ça va représenter une grosse perte de temps.
Perte de temps, perte financière. Ces usines reviendront ensuite à partir de la fin des années 70-80 dans les lieux où ils étaient placés à l'origine. On a d'ailleurs, une littérature, un cinéma sur cette question. Mais il faut bien voir que ces usines, par moment, n'avaient pas de nom. C'était simplement des numéros. Elles étaient destinées uniquement à servir l'armée.
Alors on arrive presque au terme de cette émission, Jean-François Huché. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer des 20 ans de réformes mises en place par Mao à partir de la fin des années 50? On peut dire que l'industrie et l'agriculture n'ont jamais été aussi désorganisées au milieu des années 70?
Oui, c'est un échec et c'est bien pour cela qu'on peut, jusqu'en 1978, classer cette période. Qui pourtant avait commencé avec beaucoup d'espoir en 1949, on peut classer cette période dans la longue durée comme une période où la modernisation a échoué. Alors, il n'en reste pas moins que tout n'est pas complètement négatif dans les politiques maoïstes. On a effectivement fait des grandes campagnes de santé pour l'hygiène, on a sur le plan de l'éducation primaire et secondaire fait pas mal de choses. Et
contrairement à l'Inde, l'alphabétisation a bien marché.
Complètement. Et donc, on a construit un État, la Chine est revenue à une paix intérieure, et donc c'est sur également ces points positifs que Deng Xiaoping va aussi pouvoir par la suite construire ses réformes économiques.
Et avant même l'arrivée de Deng Xiaoping, au milieu des années 70, le Premier ministre Zhou Enlai va mettre en place des nouvelles réformes qui, elles, vont s'avérer un peu plus fructueuses.
Oui, alors on est dans des réformes tout à fait embryonnaires puisque il y avait encore des factions à l'intérieur du Parti communiste qui se servaient de Mao et qui étaient là aussi pour critiquer justement toutes ces réformes. Donc ce sont des réformes assez timides qui sont enrobées d'un vocabulaire communiste. Mais c'est vrai qu'à partir de 1974, on commence à avoir des solutions qui sont apportées à l'économie. Notamment, Deng Xiaoping revient au pouvoir. Et on a déjà un petit peu les prémices de ce qui va véritablement commencer après 1978, mais durant cette période, c'est quand même relativement timide encore.
Deng Xiaoping, qui revient au pouvoir après la mort de Mao en 1976, et à une époque où le programme de réforme timide dont vous parlez était remis en question par ce qu'on appelle la bande des quatre. Comment est-ce que, justement, Deng Xiaoping réussit-il à prendre le pouvoir pour pouvoir mener ensuite sa politique d'ouverture qui tient encore jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, Mao a été envoyé en exil intérieur de 66 à 73, il revient au pouvoir. En 76, janvier 76, il est écarté une deuxième fois du pouvoir. Et puis, à la mort de Mao, en fait, il y a une sorte de coalition avec l'armée. Et Deng Xiaoping est l'homme de la situation, puisqu'il a à la fois des réseaux dans l'armée, c'est le diplomate qui a représenté la Chine en 1974 aux Nations Unies, c'est lui qui a une vision économique, c'est le seul qui peut véritablement diriger la Chine à cette époque, et donc on va arrêter la bande des quatre, et progressivement il va installer ses hommes et revenir vers une sorte de normalité, on va dire, en Chine à cette époque.
Deng Xiaoping qui va théoriser le socialisme de marché, un savant mélange de communisme et de capitalisme. On en parlera demain avec Marie-Claire Bergère et Françoise Lemoine. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur le conflit commercial qui oppose la Chine à son voisin américain.
Absolument, alors que les premiers négociateurs américains viennent d'arriver en Chine pour tenter de trouver une issue à ce qu'il convient désormais d'appeler une guerre commerciale, il était intéressant de revenir aux origines de cette querelle larvée entre les deux premières puissances du monde. Il faut dire qu'à force d'outrances verbales et de provocations diplomatiques, il était devenu difficile de se rappeler les origines de cette hostilité ouverte entre le président américain et son homologue chinois. À peine se souvient-on des tweets rageurs du président Trump et des réponses mi-laconiques, mi-exaspérées de la part de Pékin. Une opposition frontale qui avait culminé en juillet dernier avec l'annonce par le président américain d'une nouvelle série de sanctions commerciales à l'encontre du voisin chinois.
Une décision de l'administration américaine qui faisait suite à la hausse des tarifs douaniers imposés par la Chine.
Oui, répondant elle-même à une première vague de surtaxes américaines de 25% la semaine précédente. On pourrait donc chercher longtemps qui de la poule américaine ou de l'œuf chinois est en cause dans cette affaire sans parvenir à une réponse définitive. Toujours est-il que les deux hyperpuissances ont fini par se retrouver à Buenos Aires en décembre dernier afin de trouver une solution ou une sortie honorable aux deux protagonistes de cette escalade sans précédent. Si cette réunion n'a pas conduit à un apaisement complet des relations sino-américaines, elle a néanmoins débouché sur une trêve allant jusqu'au 1er mars. Les deux pays se sont donc donné 3 mois pour discuter, négocier et tenter de trouver un terrain d'entente sur cette épineuse question. Passé cette date, les droits de douane américains toucheront environ 200 milliards de dollars d'importations chinoises, passeront de 10 à 25%.
Il faut dire que les États-Unis accusent un déficit commercial de près de 380 milliards de dollars avec la Chine.
Oui, c'est bien là le cœur de la brouille diplomatique entre les deux pays. Dès sa campagne, le candidat Trump avait choisi de prendre la Chine pour cible en dénonçant la profonde asymétrie des relations commerciales entre les deux pays. L'enjeu pour Trump est donc de rééquilibrer la balance en faveur des États-Unis et des entreprises américaines, mais aussi de mettre un terme à ce que Washington considère comme des pratiques déloyales de la part de Pékin. Les exigences américaines portent ainsi tout particulièrement sur le transfert de technologies imposées aux entreprises étrangères implantées en Chine, sur l'ouverture du marché intérieur chinois et sur le respect de la propriété intellectuelle.
En dépit de son ton volontairement outrancier, le président américain soulève donc des problématiques tout à fait légitimes en général.
Oui, on peut même dire qu'avec ses saillies verbales et numériques incontrôlées, le président américain agit comme le révélateur des incohérences du système économique mondialisé. Il dit non seulement tout haut ce que nombre de dirigeants pensent tout bas en ce qui concerne la Chine, mais nous invite aussi à repenser les règles du jeu du libre-échange telles que pensées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En revenant sur le pacte faustien qui a vu les États-Unis construire leur suprématie économique sur la puissance manufacturière de la Chine, le président Trump met les pieds dans le plat du libre-échange et nous interroge sur l'attitude à adopter face aux velléités hégémoniques de la Chine en matière économique et commerciale. Cette guerre sino-américaine nous incite donc à penser les limites et les asymétries de cette mondialisation économique qui, sous couvert de libre-échange, prolonge surtout la loi du plus fort en matière économique et commerciale.
Si je suis rapide et rusé, quand je fais mes mains aux croisées, me disait un Esquimau, c'est grâce à la pensée de Mao. S'il est vrai que plaisir désir d'amour ne dure qu'un moment très court. Moi, je dis qu'un bon moment vaut bien de cornes d'éléphant. C'est moi que je suis pour Mao contre Liu Shaoxi. J'ai mon bréviaire de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois les quarts de rouge. Le quart de rouge, c'est la boisson du quart de rouge.
Mao et Moa de Nino Ferrer. Merci beaucoup Jean-François Huchet de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, nous assisterons donc à l'ouverture économique de la Chine sous l'égide de Deng Xiaoping. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.